Chapitre 11. Elle était si différente du jour où, sur la plage de Beaulieu, il admirait dans son élégance et son bonheur. Ses vêtements conservaient les lignes d'une bonne coupe, sans dissimuler la pauvreté qui essaie de se cacher sous quelques apparences, et son visage amaigri portait la marque de grandes souffrances. « Vous ne me reconnaissez plus ?» dit-elle avec un faible sourire. « 14 mois que Fabien est parti. 14 mois de douleur et de lutte pour la vie. » Vous ne lutterez plus pour la vie, je ne le veux pas. Fiez-vous à l'ami résolu à vous aider, vous soutenir. Oh, je suis brave et j'entends vivre en travaillant. Si vous me découvrez une position rémunératrice, vous me rendrez le plus grand des services. Il y aurait mieux, dit-il machinalement. Mieux? Non pas. Ne faites pas comme les odieuses gens qui m'offraient de l'argent au lieu de m'aider autrement. « Je ne vous offre pas de l'argent, je vous offre mon amitié, déjà bien ancienne. »« Ancienne, je sais, j'y crois, » répondit-elle attendrie. « Alors, si vous savez, si vous croyez, vous conviendrez que cette longue, cette fidèle amitié doit avoir des conséquences, des privilèges, beaucoup de privilèges. Pourquoi me regardez-vous d'un air si scrutateur? Ne pensez-vous pas comme moi ?»« Je me défie. » De quoi? Vous n'êtes plus la même, vos épreuves ont modifié votre caractère, pauvre... Pardonnez, j'allais dire, pauvre enfant. Il parlait avec tant de bonté que Frédéric s'abandonna à une émotion qui concerna Gerbert. Elle sanglota, puis par un grand effort se calma subitement. Vous voyez juste, je ne suis plus la même. Oh, cher ami, que de changements! Et comment remonter la pente? Il le faut cependant, il le faut pour mes fils. Pauvres petits, ils souffrent déjà de la vie. Et moi, qui les voyais transformés en hommes distingués, instruits. Moi, qui les croyais pour toujours à l'abri de telles vicissitudes. Sa voix tremblante en parlant de ses enfants émut violemment M. d'Hautefort et il vit aussitôt la marche qu'il devait suivre. Il lui répondit avec un calme persuasif. Tout s'arrangera à la condition d'écarter une fierté exagérée. Écoutez-moi bien, vos fils ne manqueront de rien, ils doivent être élevés, instruits, selon leurs conditions sociales, et vous me laisserez ce soin. Elle eut un moment d'effarement et se remit à pleurer. Excusez-moi, je suis ébranlée et la bonté m'émeut sans que je puisse réagir. Que me proposez-vous, mon Dieu? Quoi, mes enfants, vous? Eh bien oui, en souvenir de mon amitié pour Fabien, je serai pour ses fils un bon oncle. C'est tout simple. Vous appelez cela simple? Vous réfléchirez et vous verrez qu'en effet, une pareille proposition est extrêmement simple venant d'un célibataire de mon espèce. Satisfait d'avoir posé un jalon, il ne se permit pas d'insister et promit d'aller la voir le lendemain. « Avez-vous reçu la lettre de Madame de Paulin ?»« Non, puisque vous ne m'en parlez pas. »« Quelle lettre ? Ah oui, je me souviens. Elle me l'annonce en me parlant de votre arrivée. »« Vous recevrez la lettre aujourd'hui ou demain. » Elle le quitta sans plus penser à la visite qu'elle voulait faire à son ancien chef. Elle avait hâte d'être auprès de ses parents et se disait « Voilà donc la forme de son influence. Ce n'est pas mon mari qu'il devait sauver, mais les enfants de Fabien, si toutefois je puis accepter. Il aimait son ami, donc il avait foi dans son honorabilité. » L'oral, en écoutant le récit de sa fille, eut aussitôt une pensée qu'il tint secrète, mais qui fit battre de joie son vieux cœur. « Croyez-vous que je puisse accepter un tel service, ou pour mieux parler, un tel bienfait ?» « Sans aucun doute, on accepte pour ses enfants ce qu'on n'accepterait pas pour soi-même. »« Non, non, pas pour soi-même. »« Père, » ajouta-t-elle en se jetant au cours de l'oral, « me voici réconciliée avec l'humanité. » Le soir, elle reçut la lettre d'Irène. « Ma bien chère Frédérique, mon mari est décidément submergé par son travail. Il lui faut une secrétaire et nous pensons à vous. » Venez à Rome, nous vous logerons dans une petite maison de travailleurs située à l'extrémité de notre jardin. Vous serez chez vous, indépendante, et vous aurez 600 francs par mois. C'est peu, mais nous ne pouvons pas faire plus. Seulement, il y a la table qui vous sera servie dans votre maisonnette. Venez, cher Frédéric, un changement aussi complet vous fera du bien, en dehors du plaisir que vous aurez à gagner votre vie. » Louis estime que le travail durera au moins un an et vos enfants, dont vous ne voudrez certainement pas vous séparer, iraient dans un collège dont les prix seront, je crois, réduits sur la demande de Monsieur de Paulin. Dans la chaumière en question, deux pièces moyennes, une petite cuisine et quelques débarras. Je crois que vous vous y plairez. Venez, venez. Vous aurez à travailler sérieusement. Louis prétend qu'il sera exigeant, mais nos efforts tendront à vous tout faciliter et à vous rendre presque heureuse. Irène. Dans son saisissement, Frédéric, sans dire un mot, tendit la lettre à sa mère. L'oral, penché sur le papier, lisait avec sa femme et partageait la stupéfaction de sa fille. « Qu'en penses-tu, ma chérie ?»« Que c'est une merveille, un miracle d'avoir de tels amis. Ce matin, M. d'Hautefort, ce soir une perspective qui achève de neutraliser les angoisses. » Alors cette proposition m'enthousiasmerait sans l'idée de vous laisser seule. La séparation serait provisoire, elle ne doit pas entrer en ligne de compte, déclara Madame Loral. Il faut toujours profiter d'une bonne aubaine. Ta mère a raison, Frédéric. Mais la pensée secrète le troublait. Comment alors se réaliserait-elle? Je répondrai après avoir vu M. d'Hautefort, répondit Frédéric. Au fond, la décision était prise sans hésitation et ils passèrent une partie de la nuit à étudier les avantages qu'offrait la proposition de M. et Mme de Paulin. Dans l'après-midi du lendemain, Gerbert entra chez les Loral en homme du monde qui pénètre dans un salon sans se permettre de l'inventorier, usage décadent de notre décadente époque. Sa cordialité, son aisance chassèrent l'embarras des excellentes gens qu'il recevait. Loral ne l'avait pas vu depuis 10 ans et l'examinait avec l'intérêt le plus vif. Il le trouvait vieilli, avec ses cheveux devenus très gris, mais singulièrement sympathique. « Voici la lettre dont vous me parliez, » lui dit Frédéric. « Lisez, je vous en prie. »« Je connais le projet. J'espère bien que vous lui donnerez suite. »« Lisez tout de même. » Il s'arrêta sur le passage relatif aux enfants. « Ah non, non, 3 fois non !» Ceux-ci me regardent et je ne veux pas qu'on marche sur mes brisées. Je connais la meilleure, la plus aristocratique pension de Rome. J'y mettrai mes neveux si vous le permettez. Vous voulez bien, n'est-ce pas? Vous m'accordez ce royal plaisir? Ah, dit-elle très émue, lisez dans mon cœur sans que je parle, car mes paroles amoindriraient ce que j'éprouve. Monsieur et Madame Loral furent sobres dans leurs remerciements, mais Gerbert les sentait pénétrés de reconnaissance. « Pourrez-vous partir sans attendre, madame ?»« Sans attendre, le temps de m'équiper, et pourtant... »«
Pourtant quoi ?»«
Mon travail est-il nécessaire à monsieur de Paulin ? La demande n'est-elle pas une charité déguisée ?»«
Je puis vous assurer que si vous n'acceptiez pas, il prendrait une autre personne. Et n'est-il pas naturel qu'il soit heureux de vous rendre service, si service il y a ?» « Ne vous laissez pas troubler par les inquiétudes de votre fierté ou de votre orgueil. »«
Voilà qui est parlé !» s'écria gaiement Loral.
« Mon orgueil, vous n'êtes plus qualifié pour me le reprocher. »«
Très vrai, très mal de ma part, alors que vous n'avez pas repoussé les désirs de votre vieille amie. » Après le départ de M. d'Hautefort, Frédéric se précipita sur sa plume.
« Ma chère Irène, que vous êtes bonne, que je vous aime, je viens avec une joie mitigée par mon chagrin de veuve, ce que vous comprendrez, mais je sais me taire et aussi me reprendre à la vie. C'est vous, vous deux et Monsieur d'Hautefort qui me sortez de ma détresse, soyez 1000 fois bénis. Je multiplierai mes efforts afin que mon travail, quel qu'il soit, réponde aux exigences de Monsieur de Paulin. Mais il a plus de confiance en moi que moi en moi-même. J'apprendrai, je m'initierai. Une chaumière dans votre jardin, quel rêve! Indépendante et tout près de vous, votre bonté pense à tout. Monsieur d'Hautfort doit vous écrire. Il vous dira qu'il veut se charger de l'instruction présente et future de mes enfants. Après les maudits instants de l'existence, de bien belles heures surgissent. Je le vis depuis hier. Au revoir, je fais mes préparatifs et je pars. Par préparatif, j'entends ma toilette. Si vous saviez comme je suis mal habillée, mon cher père prend le nécessaire sur ses économies, déjà bien écornées, pour que je vous arrive sans la crainte que vous ayez à rougir d'une amie si reconnaissante, chère Irène. Monsieur et Madame Laurent ne parlaient que de leur satisfaction lorsque Frédéric revenait sur ses regrets de les quitter. « Un an est bientôt passé, disait tranquillement Laurent, tu nous écriras souvent. Je prendrai des notes et vous les enverrai, ce sera une sorte de journal quotidien. Mettras-tu toutes tes pensées dans ton journal ?»«
Toutes !»
Son père en doutait à cause de son idée secrète, mais il répondit « Alors, ma bonne chérie, nous continuerons à vivre avec toi. » Ses parents, si oublieux d'eux-mêmes, causaient tristement, après avoir vu partir leurs filles et leurs petits-enfants, lorsque Laurent reçut un pneumatique de M. d'Hautfort qui le priait de passer à son hôtel. « Vous excuserez mon sans-gêne, lui dit Gerbert en lui serrant cordialement la main, mais je veux vous prendre pour confident et mieux vaut que nous soyons seuls. »«
Pour confident ?»
Permettez-moi d'agir rondement. Je crois du reste que cette manière répond à votre propre nature. Il y a 10 ans, madame votre fille vous aura dit que, ne la sachant pas fiancée, je lui avais demandé de m'épouser.
Certainement.
Un autre a été plus heureux que moi, mais elle a connu des années de bonheur, puis le malheur que je redoutais est arrivé. Il était aisé de le prévoir. Mon gendre, dans les derniers temps, ne se possédait plus. Il avait des audaces insensées et je ne pouvais rien, rien. Terrible chose, je vous assure.
Je m'en doute bien. Croyez-vous que Madame d'Auzac, toujours aimée, accepterait de se remarier ?
La pensée secrète se réalisait et Laurent, dont la bouche tremblait d'émotion, ne savait comment s'exprimer.
Parlez franchement.
Franchement, je n'en sais rien. Elle aimait passionnément son mari.
Elle est jeune, elle a 2 enfants, et j'ajoute, sans vouloir vous peiner, que sa seule ressource est et sera son travail.
Laurent reprenait de l'aplomb, et avec une simplicité qu'admira Gerbert, il répondit
« Monsieur d'Hautfort, ce serait un bonheur inouï pour moi et ma femme si elle acceptait. Mais toujours, le fond des cœurs contient des coins ignorés. Tant de nuances déconcertantes, souvent chez les femmes, vous savez. »
Dans l'espèce, le souvenir de son mari n'est pas un coin ignoré. Je vous exprime l'espoir timide que Madame d'Auzac peut s'attacher à moi sans la passion de son premier amour. Je n'aurai aucune jalousie rétrospective.
Elle a déjà pour vous beaucoup d'amitié, une grande confiance.
Il fut sur le point d'ajouter que la reconnaissance devrait décider sa fille, mais il s'arrêta à temps.
« Enfin, vous me soutiendrez si je vois que je puis parler ?»«
Vous n'en doutez pas, » répondit Laurent avec une nouvelle émotion. Gerbert lui expliqua qu'il voulait marcher à petits pas et découvrir les coins ignorés dont vous me parliez à l'instant. Ils excitent ma défiance.
« Mais ma fille est partie. » »«
Je la rejoindrai. Mon intention est de passer plusieurs mois à Rome. Vos petits-fils seront le premier prétexte, prétexte très acceptable, puisque je dois m'occuper de leur pension, de leur goût. Je ne presserai rien. Le temps doit être mis de notre côté. »
En quelques mots, dont Gerbert apprécia la dignité, Laurel le remercia chaleureusement.
« Notre conversation est confidentielle. Mais comment la cacher à ma femme ? J'étoufferai. »
« Ne la cachez pas. Je serai désolé si vous étouffiez, » répliqua M. d'Hautfort en riant.
Mais je désirais être seul avec vous pour sonder le terrain. Quelle que soit ma sympathie pour Madame Laurent, moi aussi je redoute les nuances féminines qui embrouillent les questions. Surtout, silence absolu vis-à-vis de Madame d'Auzac. Pas la moindre allusion.
Oh, soyez tranquille, nous nous garderons de mettre la main à la pâte.
Laurent marchait dans un rêve en revenant chez lui et s'épancha avec sa femme. Le galant homme, si polie, si simple avec un petit employé comme moi. J'ai failli commettre une énorme bêtise en parlant de la reconnaissance qui devrait décider Frédéric.
Cependant, c'est vrai ?
Vrai aussi que j'aurais profondément blessé M. d'Hautefort. Il doit être épousé autrement que par reconnaissance.